Question politique, c'est parti. Bonjour et merci de nous être fidèles tous les dimanches. Merci de votre confiance puisque vous faites de cette émission le premier rendez-vous politique du week-end. L'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, dans ses premiers discours de ministre, il parlait souvent de bonheur. Donner le bonheur aux enseignants d'enseigner, donner le bonheur aux élèves d'aller à l'école. Aujourd'hui, on l'entend surtout parler d'ordre et d'autorité. Et c'est lui que nous voulions entendre à un moment que nous savons tous important du quinquennat d'Emmanuel Macron et au lendemain de la mobilisation des Gilets jaunes. Vous l'entendiez dans nos journaux. Toujours environ 150 sites bloqués aujourd'hui. Comment lui analyse-t-il ce mouvement et comment y répondre? Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, s'est installé au micro et devant les caméras de questions politiques. N'hésitez pas à intervenir via l'application France Inter. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire ou sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le mot-clé Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous savez qu'une société qui doute se tourne naturellement vers son école et pour tous les sujets sur des questions extrêmement différentes, nous avions envie de vous entendre. À mes côtés pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut à tous.
Avant de parler de l'éducation, un mot sur la mobilisation des Gilets jaunes. Jean-Michel Blanquer, comment analysez-vous ce mouvement, un mouvement spontané sans leader, mais qu'est-ce qu'il dit d'après vous ?
C'est un mouvement qui dit quelque chose du sentiment d'insécurité, entendu au sens large, que peuvent éprouver un nombre de Français non négligeable. Et donc il faut évidemment entendre cela. Bien entendu, c'est toujours regrettable de voir que les choses se passent d'une manière qui ensuite peut se dégrader, puisqu'on a vu qu'hier il y a eu un certain nombre de blessés et même un mort, et donc c'est quand même quelque chose qu'on doit déplorer.
Quand vous dites entendre, qu'est-ce que ça veut dire, entendre ?
Entendre, ben c'est, il y a des
difficile de faire la sourde oreille. Comment répondre ?
Bien sûr, il y a beaucoup de Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Je vous dirais que les causes du mouvement que l'on voit aujourd'hui sont peut-être les mêmes causes que celles qui ont fait qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Autrement dit, pour le dire les choses autrement, Emmanuel Macron est arrivé précisément parce que la France était déjà largement en crise. Donc le problème n'est pas nouveau. Ce qui est un petit peu paradoxal dans la situation, c'est que nous ne sommes au pouvoir que depuis 18 mois. Chacun sait que l'ensemble des problèmes auxquels tout ceci renvoie sont très structurels. C'est le sujet de notre modèle économique en particulier, mais aussi de notre modèle de société. Il y a un cap qui a été fixé. Ce cap, à mes yeux, est très clair. Peut-être ne l'est-il pas assez pour un certain nombre de nos concitoyens. C'est pour ça qu'il faut expliquer et c'est aussi pour ça qu'il faut écouter. Mais c'est un petit peu paradoxal de voir aujourd'hui le gouvernement concentrer toutes les attaques sur des sujets qui, en réalité, sont bien antérieurs à 18 mois et au moment même où, justement, nous travaillons pour que les choses changent.
Françoise,
c'est marrant parce que vous dites « c'est pas de notre faute ». Ce que j'entends, c'est ça, c'est pas de notre faute. Mais qu'est-ce que vous leur dites sincèrement ce matin, tous ces manifestants ?
Ça c'est votre traduction. J'ai pas dit ça n'est pas notre faute. Je dis les problèmes sont structurels. Je crois que personne ne peut le nier. Il y a un sujet de, disons que déjà la crise de 2008 a révélé un certain nombre de problèmes. Qu'on a une crise économique qui a été résolue en partie, mais pas complètement. On sait bien qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle civilisation, totalement technologique, avec ses bons et ses mauvais aspects.
Non, mais il y a des gouttes d'eau qui font déborder les vases.
Notre modèle, qu'on a aussi tout le défi de la transition écologique, toute une série de sujets qui sont extrêmement sérieux et pour lesquels le chef de l'État, au travers de son élection, a proposé des pistes. Et ces pistes, elles sont entamées depuis 18 mois, et tout un chacun, dès qu'on raisonne un petit peu sur ces questions, on sait très bien que les résultats prennent du temps.
Mais qu'est-ce que vous dites ? Il y a déjà des premiers résultats. Qu'est-ce que vous dites à ces manifestants qui vont pas bien, qui disent qu'ils en ont ras-le-bol, en fait, la vie qu'ils vivent ? Vous leur dites quoi, en fait ? On n'entend pas d'empathie.
Bah écoutez, peut-être que vous l'entendez pas, mais elle est là pourtant, et c'est peut-être que vous n'avez pas envie de l'entendre. Elle est complètement là, l'empathie, dans tout ce que je viens de dire, bien entendu qu'il faut écouter d'abord tous les Français, de façon générale. Nous devons être dans une société où on se respecte davantage, donc on se parle bien, et où on s'écoute bien. Et c'est évidemment ce que je prône au travers de l'école. Et j'ai évidemment la même attitude vis-à-vis de ceux qui ont manifesté hier que vis-à-vis de chaque Français. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que ça va pas, c'est qu'il a des raisons de le dire. Donc il faut l'écouter. Mmh. Donc cette empathie, elle est là totalement. Maintenant, on va pas sombrer dans l'irrationalité. C'est-à-dire, c'est pas parce que on dit ça ne va pas que d'un seul coup il faudrait s'énerver ou au contraire changer de cap d'un jour à l'autre. Il faut simplement d'abord expliquer pourquoi on fait ce que l'on fait. Peut-être aussi parfois rectifier certaines choses qui sont dites, parce que vous savez, c'est très commode d'attribuer à ce gouvernement toute une série de mots qui, en effet, ne datent pas de 18 mois, ou qui parfois sont des problèmes géopolitiques mondiaux, par exemple l'augmentation du prix du pétrole, qui se répercute sur la pompe, et donc l'augmentation des taxes n'est que très minoritaire
C'est contestable. On va y venir, Jean-Michel Blanquer, c'est intéressant, vous avez prononcé un mot qui est un mot clé, irrationalité. Françoise.
Ce qui est quand même intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites la colère et l'insécurité, elle était là. Mais il y a quand même eu une étincelle qui a été le prix du carburant. Est-ce que, a posteriori, vous dites, on a quand même manqué de capteurs sur les difficultés éprouvées par certains Français qui en sont vraiment à un euro à la fin de, un euro près à la fin du mois et qui vivent ce qui se passe aujourd'hui comme au fond, non seulement on nous entend pas, mais on est venu les vaches à lait d'un système et on est inaudible. Qu'est-ce que vous leur répondez,
Jean-Michel Blanquer?
D'abord, ça pose l'augmentation du prix du carburant. Elle pose deux types de problèmes pour la vie quotidienne. C'est le chauffage et la voiture. S'agissant du chauffage, il y a eu une écoute depuis le début sur cette question, puisque pour un grand nombre de ménages, plus de 3 millions, et on va passer bientôt à 6 millions de ménages, il y a une prime de chèque énergie qui est quand même très important, qui va aller jusqu'à 200 euros. Et donc, ça touche 6 millions de foyers, les 6 millions les plus pauvres de France. C'est donc... Il y a eu une écoute avant ces manifestations et nous amplifions
des mesures prises dans l'urgence aussi, Jean-Michel Blanquer, mais qui n'ont pas empêché la mobilisation d'hier.
Justement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elles ne sont pas prises. C'est pour répondre précisément à votre question, c'est que ce chèque énergie, il existait avant les manifestations. Et ce que nous faisons simplement, c'est nous en amplifions la portée. Et la logique, tout le monde peut la comprendre, c'est que on veut une économie de plus en plus décarbonée. Donc, on assume d'avoir en effet une fiscalité plus forte sur le pétrole. Mmh. C'est un fait. En revanche, nous voulons aussi protéger les Français à qui ça pose des problèmes de fin de mois considérables, grâce à ce chèque énergie. Donc, il y a un sens à tout ça. Il y a évidemment un sens et nous devons...
Mais donc, c'est irrationnel. C'est la même chose. Je reprends votre mot. Est-ce que c'est irrationnel, ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que pour vous, il témoigne d'une irrationalité?
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ce qui serait irrationnel, ce serait de réagir au cas par cas, de changer de cap chaque matin. C'est ça qui serait irrationnel. Donc, j'ai pas dit que le mouvement était irrationnel. J'ai dit au contraire Non, mais c'est pas ce que je pense. Donc, je vais pas le dire. Non, je pense que quand des gens disent quelque chose, il faut les entendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, on doit surtout maintenant passer à autre chose, c'est-à-dire montrer qu'on écoute. Il faut que ceci se canalise, qu'il y ait du dialogue social qui permette à chacun de se sentir entendu et que l'on avance vers les mesures qui permettent évidemment aux Français de sentir que leur vie quotidienne s'améliore. Mais rappelons quand même, et parce que si ce n'est pas nous qui le disons, qui le dira? Parce que quand même toute une série de mesures qui ont été prises et qui vont dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat. Parce que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Et il y a beaucoup de choses qui font du bien aussi. C'est l'augmentation de l'allocation pour les adultes handicapés, c'est l'augmentation du minimum vieillesse, c'est la baisse des cotisations sociales, c'est la fin de la taxe d'habitation, toute une série de choses.
Il y a quand même l'INSEE qui rappelle très bien que, certes, le pouvoir d'achat, par exemple, des classes moyennes a un petit peu augmenté depuis votre arrivée au pouvoir. En revanche, ceux qui ont vraiment vu leur pouvoir d'achat augmenter, c'est le 1% des personnes les plus riches. Il y a eu une étude dans Le Monde où on le lisait très bien. Donc là, en ce moment, on est en train de parler des classes modestes, voire des toutes petites classes qui, elles, ne voient pas son pouvoir d'achat augmenter. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous êtes en train de dire.
Encore une fois, j'espère que vous pouvez me laisser parler quand même.
C'est totalement libre de votre parole, monsieur le ministre.
D'abord, un certain nombre de mesures prennent leur pleine ampleur à l'occasion de l'année 2019. C'est une montée en charge puissante. Par exemple, on a eu d'abord l'augmentation de la CSG, c'est un fait. C'était aussi une mesure assumée, annoncée par le président de la République avant même d'être élu, mais la grande compensation de ça, c'est la baisse des cotisations sociales. Donc on commence à voir les effets en cette fin d'année 2018, dont on verra pleinement les effets en 2019. Il y a des phénomènes de redistribution qui prennent tout simplement du temps. Il y a par ailleurs, et c'est le plus important, même la relance de la machine économique. C'est malgré tout la meilleure réponse aux enjeux de pouvoir d'achat, c'est quand même que tout le monde puisse trouver un emploi, que tout le monde soit bien formé pour cela, et qu'il y ait une France qui soit forte sur le plan de son industrialisation et sur le plan de sa modernisation aussi, dans tous les grands défis du 21e siècle. Il y a donc sur ces sujets-là des très grands chantiers qui ont été ouverts. C'est les lois de Madame Pénicaud qui vont permettre évidemment, et qui permettent déjà d'ailleurs, d'avoir une vie économique plus dynamique.
Mais vous ne reconnaissez pas que ce sont les 1% des Français les plus riches aujourd'hui qui bénéficient effectivement du pouvoir d'achat?
Honnêtement, je sais très bien qu'on cherche toujours à focaliser sur ces questions. Ça renvoie à un sujet.
sais qu'il décède.
Plus important. Non, oui, mais ce que, il faut, alors, faites une grande comparaison internationale et regardez si c'est en France que nous avons vraiment les phénomènes, de plus grande, il y a ce qu'on appelle l'indice de Gini, hein, et l'indice de Gini, c'est ce qui mesure l'écart finalement entre les plus riches et les plus pauvres, et la France se situe très bien dans cet indice de Gini. Donc on peut toujours commenter ce type de choses, mais il y a un vrai phénomène mondial très inquiétant d'accélération des inégalités, et c'est vrai qu'il y a un enrichissement des plus riches à l'échelle mondiale. La France, par rapport à d'autres pays, va beaucoup moins dans cette tendance. Ceci étant, il faut lutter contre la fraude fiscale des très riches, c'est un véritable problème, le gouvernement s'y attelle. Il faut lutter contre tous les mécanismes fiscaux qui font que de très grosses entreprises comme les GAFA échappent aujourd'hui à la fiscalité en France. C'est ce que fait Bruno Le Maire en ce moment même. Donc je ne peux pas laisser dire, à mon tour, qu'on serait dans une espèce de laxisme vis-à-vis des plus riches, que ce soit les personnes morales ou les personnes physiques. Et au contraire, et je peux vous le dire parce qu'on en parle souvent en Conseil des ministres, un très grand volontarisme en cette question. Et la France, sur ce sujet comme sur bien d'autres, est en train d'être leader en Europe pour arriver à de vrais résultats concrets. Par exemple, la taxation des GAFA qui mobilise beaucoup Bruno Le Maire. Donc il faut, je crois, il y a en ce moment la volonté de la part d'un certain nombre d'acteurs qui sont dans leur rôle peut-être en démocratie, de chercher à dépeindre ce gouvernement autrement qu'il n'est. Mais la réalité, c'est que ce gouvernement travaille pour la justice sociale, et très fortement, mais aussi très concrètement et sans démagogie.
Malgré votre effort de pédagogie, vous n'êtes pas le premier. Le président lui-même a donné 3 interviews au cours des derniers jours. Visiblement, ce discours-là ne passe pas, et il faut en revenir à l'essentiel. Si beaucoup de gens sont descendus dans la rue hier, c'est parce que les carburants ont augmenté. Et François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, explique ce matin que cette politique continuera. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une espèce de dialogue de sourds, j'y reviens, entre ce que vous dites, qui visiblement n'entre pas dans la tête des gens, et une colère à laquelle vous ne répondez pas. Vous dites, vous l'avez entendu, mais qu'est-ce que vous allez faire?
C'est tout sauf un dialogue de sourds. Ce que nous sommes en train de dire, c'est nous assumons le fait que les taxes augmentent en matière de pétrole, parce que c'est une tendance lourde, tendance souhaitée d'ailleurs par plusieurs partis politiques, dont certains aujourd'hui s'opposent à nous sur ces questions, parce que peut-être ils ont moins le sens des caps qui durent que nous ne l'avons.
Donc le gasoil, le prix du gasoil augmentera en janvier prochain. Donc,
c'est certainement pas au ministre de l'Éducation d'annoncer ce type de choses, mais en revanche. Nous sommes évidemment, et nous le savons, dépendants des cours de pétrole, ce qui est une raison supplémentaire pour essayer que dans le futur nous en dépendions moins. Cela la réalité. C'est tout sauf un dialogue de sourds, puisque nous disons aux Français qui ont des problèmes de fin de mois à cause de leur chauffage, parce qu'ils se chauffent au fioul, si vous êtes parmi les 6 millions de Français qui ont le plus de difficultés, si vous n'êtes pas dans ces 6 millions, vous avez moins de difficultés de fin de mois, parce que c'est à peu près la tranche des Français qui a des réelles difficultés. Donc c'est à cela nous disons oui, vous avez le chèque énergie. Pour si vous avez des problèmes avec votre voiture, c'est vrai que nous devons sortir du tout diesel qui a été la tendance à une époque. Et chacun peut reconnaître que ça n'est pas dû à ce gouvernement. Eh bien, nous devons prendre le virage, le prendre certainement d'une manière qui permette d'entendre les Français. D'abord, en ayant une politique de mobilité, là, c'est le travail que Elisabeth Borne a fait aussi sur cette question, et qui prend du temps forcément, mais qui est pris. Et donc, ce virage, nous le prenons et nous disons à ceux qui ont le plus de difficultés que nous sommes capables de faire des compensations sociales sur d'autres sujets pour leur permettre de mieux vivre.
Vous admettez juste que ce discours-là, pour l'instant, il n'est pas entendu. Est-ce que vous le reconnaissez?
Bien sûr, mais je vois aussi qu'il y a des gens qui essayent d'attiser tous les aspects négatifs, d'effacer tous les aspects positifs, toutes les mesures que j'ai énumérées tout à l'heure, qui sont considérables. Il est évident qu'il y a certains partis politiques dont c'est le métier.
L'opposition s'oppose, oui, bien sûr.
Et que c'est peut-être aussi la difficulté que nous avons d'être attaqués et de droite et de gauche, avec des acteurs qui sont parfois inconséquents ou qui
nommez-les.
Il suffit de regarder les débats à l'Assemblée pour voir ce qu'il en est, pour voir des axes parfois très surprenants.
Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, vous pensez à
ça? Mais ça peut parfois même être des axes tout à fait de tous ordres.
Soyez le plus clair, vraiment, très sincèrement, pour moi et pour ceux qui nous écoutent, Jean-Michel Blanquer.
Très clair, c'est que vous êtes... Non, parce que c'est multiforme, donc je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, mais si vous regardez comment ça fonctionne en ce moment à l'Assemblée nationale, vous voyez des députés En Marche et des députés Modem, souvent des personnes de bonne volonté qui cherchent à résoudre des problèmes. Et puis, de temps en temps, évidemment, les autres députés sont certainement de bonne volonté aussi. Mais ce que j'observe parfois, c'est que vous voyez des axes très surprenants. Ça peut être entre les deux partis que vous avez cités, mais ça peut être d'autres. De personnes qui se retrouvent tout simplement parce qu'ils ont perdu leur boussole idéologique, je pense.
Françoise Fressoz.
Alors, vous disiez tout à l'heure, il faut essayer de canaliser le dialogue et peut-être trouver des mesures, pas sur la fiscalité du gazole, mais des mesures qui disent, qui montrent qu'on a compris les Français. Comment vous allez canaliser ce dialogue et est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles mesures pour essayer d'atténuer la colère, pas sur la fiscalité, mais dans d'autres domaines ?
Jean-Michel Blanquer.
Bon, d'abord, je pense que il y a la question de la méthode. Autrement dit, je pense que ce qui excite la colère aussi, c'est quand les gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés. Quand on nous donne le sentiment que c'est Paris contre le reste de la France, quand on donne le sentiment que c'est les élites contre le reste du pays. Or, ce n'est absolument pas notre démarche.
Le président de la République lui-même reconnaissait sur TF1, et ça, Françoise s'en souvient très bien, il reconnaissait la difficulté ou la nécessité de réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
Et surtout, il actait qu'il n'y était pas parvenu.
C'est le moins qu'on puisse dire, puisque effectivement, il y a les problèmes que nous constatons. Donc, nous ne disons pas qu'il n'y a pas un problème. Au contraire, nous le reconnaissons. Maintenant, il faut discerner les bonnes et les mauvaises raisons de tout cela. Il y a ce qui relève de questions objectives, les difficultés de pouvoir d'achat des Français. Il y a ce qui relève de questions subjectives, les problèmes peut-être aussi de pédagogie de notre part. Il y a aussi ce qui relève d'autres raisons subjectives, c'est-à-dire tous les ventilateurs à problème que sont certains porte-voix dans l'opinion qui cherchent un petit peu à attiser les difficultés. Et donc, il faut discerner les raisons. Et on ne va pas sombrer ni dans un mea culpa absolu, ni dans l'autosatisfaction. Il faut être dans une ligne d'équilibre. Et pour cela, il faut être sérieux, il faut être raisonnable. Il faut aussi partager le plus possible avec les Français les lignes d'action dans la durée qui sont les nôtres. Parce que le but, c'est de préparer le pays à son futur, à court, moyen et long terme. Nous pensons beaucoup aussi aux générations futures, à nos enfants, tout simplement.
Et on va parler d'éducation
dans un instant.
C'est quand
même un sujet au travers de l'éducation. Nous y pensons tous les jours, mais c'est vrai qu'il faut aussi des résultats de court terme. Eh bien, en termes de pouvoir d'achat, notre message, c'est que 2019 sera meilleur que 2018 parce que toutes les mesures que nous avons annoncé, que le président de la République a annoncé, le Premier ministre aussi, sont des mesures qui prennent leur plein effet en 2019. L'exemple type, c'est la baisse des cotisations sociales, qui est très concrète. Hein, pour quelqu'un qui touche le SMIC, c'est autour de 280 € en 2019, de plus chaque année. Ce sont des sommes importantes qui font plus que compenser le plein d'essence dans beaucoup de cas.
Karine Bécart, puis Jeff, et on passe au portrait.
La difficulté, c'est que ces gilets jaunes ne voient pas où est leur place dans la politique macroniste, dans le macronisme dans lequel on est aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez définir la place de ces gilets jaunes? C'est quoi, dans cette France macroniste, où est leur place? C'est-à-dire, on sent que le lien n'a jamais été créé, qu'il n'existe pas et que vous n'arrivez pas, en fait, à le tisser.
Jean-Michel Blanquer.
Votre question est un peu une question impossible parce que ça revient à définir ce que sont les gilets jaunes. Or, personne, pas plus moi que quiconque, dans tout ce qu'on a entendu
depuis un
certain
temps. C'est tout ce qu'on défend moins difficile.
Oui, mais c'est une agrégation de colère très différente. Il faut quand même aussi le reconnaître, qui se manifeste aussi de façon très différente. Donc, on doit entendre le malaise auquel ça correspond, et ça c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à présent.
Mais il n'y a pas une France que vous avez oubliée quand même.
Alors certainement pas. Je voulais peut-être qu'on ait pu donner le sentiment de l'oublier, je veux bien, mais je peux vous dire que moi chaque jour je ne pense qu'à ça. Quand on fait le dédoublement des classes de CP et de CE1, je pense aux enfants les plus défavorisés.
On va y venir Jean-Michel Blanquer, mais un élément à verser au dossier parce que c'est intéressant pour comprendre justement ce phénomène des gilets jaunes, c'est le sondage que publie aujourd'hui le Journal du Dimanche, sondage IFOP, qui montre que 62% des Français souhaitent que le gouvernement donne la priorité au pouvoir d'achat, quitte à aller moins rapidement sur la transition énergétique. On est au cœur là d'une contradiction à la fois dans l'action publique et dans ce qu'on pourrait imaginer comme étant l'urgence du moment.
Ben oui, je pense que c'est le rôle d'un chef de l'État, justement, que d'avoir de la hauteur par rapport à ces questions, puisque d'autres sondages nous disent aussi que maintenant, les questions climatiques sont perçues par les Français comme étant la question la plus importante. Donc nous sommes tous traversés par des contradictions. Nous, chacun de moi-même, vous-même, tous ceux qui nous écoutent, on veut plus de pouvoir d'achat et en même temps plus de redistribution, on veut de l'écologie, mais on veut aussi de l'économie. Et c'est bien le rôle d'un gouvernement, et c'est ce que nous faisons en ce moment, de travailler à avoir justement une économie qui soit non seulement pas contradictoire avec l'écologie, mais qui aille de pair avec l'écologie. Donc moi je crois que les Français aujourd'hui ont de vraies préoccupations écologiques, ne serait-ce que parce qu'ils payent parfois les conséquences de la pollution, les conséquences du dérèglement climatique. Et donc profondément, ils seront reconnaissants à un gouvernement qui aura fait ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on doit être sourd aux enjeux de pouvoir d'achat? Non. Mais en tout cas, il y a évidemment une stratégie cohérente en la matière. Et c'est celle que l'ensemble des ministres du gouvernement et le Premier ministre, ainsi que le Président, exposent depuis maintenant un certain temps.
Jeff,
quand vous avez entendu des manifestants hier qui étaient décidés à marcher sur l'Élysée, quand beaucoup demandent la démission, ni plus ni moins, du Président de la République, est-ce qu'au-delà de la colère sur les carburants, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, il n'y a pas un anti-macronisme virulent qui est en train de s'installer dans une partie de l'opinion, que reflètent en partie des sondages, comme un effet boomerang aussi de ces déclarations sur traverser la rue pour trouver du boulot, les Gaulois réfractaires? Est-ce que tout ça n'est pas en train de lui revenir à lui personnellement, Emmanuel Macron?
On n'est pas non plus. Alors, on peut être à l'écoute de l'ensemble des Gilets jaunes sans être d'accord avec les formes les plus extrêmes que cela a pu prendre hier. Donc, je ne vais pas non plus être dans la démagogie de vous dire qu'ils ont tous raison. Et là, en l'occurrence, ceux-là n'ont pas raison. C'est inacceptable. Ce sont des démarches qui rappellent des épisodes très noirs de notre histoire. Donc, il est évidemment inacceptable d'avoir un groupe de personnes qui envisagent de...
Vous pensez aux ligues? Vous pensez à 1934?
Bien sûr, ce genre de choses. Et donc, c'est tout à fait inacceptable de se mettre dans cette position. Donc, il faut qu'on soit bien clair. On est à l'écoute. Le droit de manifester existe. Il est souhaitable qu'il soit fait dans les règles du droit. Sinon, on arrive au genre de catastrophe que l'on a pu avoir hier. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas à l'écoute des personnes qui manifestent. Ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi. Et d'ailleurs, le fond rejoint la forme. C'est-à-dire que cette espèce d'anti-macronisme excessif que l'on voit aujourd'hui, chez certaines personnes, on est d'un pays de 65 millions de personnes, c'est bien normal qu'il y ait des gens qui disent des choses parfois un peu extrêmes. On n'est pas obligé de trouver ça très juste. Et je pense que j'ai parlé tout à l'heure de ventilateur à difficulté. Il y a des gens qui attisent la haine. Je trouve qu'il y a une espèce de Macron machine qui est bien facile aujourd'hui et auquel ça donne, pardonnez-moi de vous le dire aussi, une partie des médias, qui est en réalité d'abord évidemment injuste et ensuite dangereux. On a au contraire de la chance en France d'avoir élu un président de la République avec la majorité parlementaire qui lui correspond, qui correspond à un moment de l'histoire extrêmement important, un moment de transition complète. On a parlé de transition écologique, mais c'est une transition de civilisation. Nous rentrons dans une nouvelle civilisation, ultra technologique, qui peut angoisser par certains côtés, mais qui représente beaucoup d'opportunités, qui peut permettre de se projeter très positivement dans le futur. Ce président, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays dans le monde, a réussi à porter un message constructif, de construction de l'avenir, et il le fait, et je peux vous dire, il est attelé au travail comme peut-être aucun de ses prédécesseurs ne l'a été, tellement il est plein d'énergie, de force et d'idées droites. Et cet homme, aujourd'hui...
Et non, pas que l'idée de droite, pardon.
L'idée d'un cap droit, d'un cap très droit. Et ce cap, qu'évidemment je considère comme juste, puisque sinon je ne l'aurais pas suivi, ce cap aujourd'hui, certains essayent de l'en faire dévier. Je pense que ça dérange d'avoir un président qui propose une vision et qui propose aussi de changer les bonnes vieilles habitudes politiques qui existaient jusqu'à présent. Aujourd'hui, on voit bien qu'on essaye, mais même certaines des phrases que vous avez citées, à chaque fois on essaye, ça m'est arrivé, vous savez, très souvent même de l'accompagner lorsqu'il y a les bains de foule, etc. Je vois d'abord très souvent des Français qui l'applaudissent, des gens qui sont fiers de ce qui est en train de s'accomplir. Et puis je vois parfois des phrases qui lui sont dites, qui sont détachées. Ce qui est tout à l'honneur du président, c'est que justement, il aime ce contact avec la population. Et il aime être apporté aussi bien des félicitations que des colères. Et il a les deux, je peux vous le dire. Eh bien, il a le courage à chaque fois de répondre, d'argumenter. Souvent, on prend un petit segment de ce qu'il a dit et on en fait des gorges chaudes pour essayer d'attiser les
colères. C'est la loi de notre époque.
Oui, mais on n'est pas obligé d'admettre cette loi. Et aujourd'hui, on en voit bien tous les effets pervers. On a la chance d'avoir, encore une fois, un président qui est cohérent, qui a vraiment une vision claire. Et c'est évidemment mon rôle aussi, comme de beaucoup d'autres gens, je pense, aujourd'hui, d'être derrière ce cap et de façon dans l'intérêt de la France. Ce qui est derrière tout ça, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de la France.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas une remise en cause aujourd'hui de la méthode Macron, en ce sens qu'on a un gouvernement quand même très technicien, qui a peut-être manqué de capteurs sur le terrain, une personnalité qui attise énormément l'attention Emmanuel Macron parce qu'il est toujours partout? Est-ce qu'il faut un gouvernement plus collectif, plus politique? Est-ce qu'il faut changer de gouvernance et de méthode?
Jean-Michel Blanquer.
Alors, d'abord, ce qui est certain au travers de ce que vous dites, c'est que le fait d'avoir un mouvement politique totalement neuf, venu de nulle part, puisque ça n'existait pas il y a un peu plus de deux ans, et donc d'avoir remis en cause le pouvoir des partis politiques qui existaient jusqu'à présent, est évidemment un facteur de force et de faiblesse. C'est un facteur de force parce que l'opinion publique a très bien vu l'effet non seulement de rajeunissement, mais l'effet d'oxygénation que ceci a représenté. Et croyez-moi, il y a encore une bonne partie de l'opinion publique qui perçoit ce caractère oxygéné de ce qui est en train de ce qui est accompli par cette nouvelle réalité. Mais en même temps, bien entendu, ça crée de la faiblesse sur les territoires, parce que nous avons peu d'élus locaux pour relayer l'action du gouvernement. Vous avez au contraire tous les jours des gens qui, de façon un peu commode, vont dire si vous avez des problèmes, c'est à cause d'Emmanuel Macron, c'est à cause du chef de l'État. Donc il y a cette espèce de facilité. Bien sûr qu'elle existe au quotidien. Et donc, oui, bien sûr, nous avons un problème parce que nous manquons d'intermédiaires, nous manquons d'élus locaux pour relayer notre... D'où la nécessité de faire alliance avec eux, et peut-être la nécessité de travailler autrement. C'est d'ailleurs ce que je fais. Moi, je fais de véritables alliances localement dans mon domaine pour arriver à faire avancer les choses très concrètement, et par-delà les clivages politiques, aussi bien avec des maires de gauche qu'avec des maires de droite, ou les quelques maires en marche qui peuvent exister. Mais nous avons besoin d'ancrer le mouvement politique sur les territoires pour avoir plus de relais, c'est évident.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, est l'invité de Questions politiques.
France Inter, Ali Badou, Questions politiques.
Votre portrait, Jean-Michel Blanquer, il est signé Karine Bécard.
Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre depuis précisément aujourd'hui 18 mois. Vous avez donc plutôt bien résisté au sein d'un gouvernement qui a quand même été 4 fois remanié, 4 fois déjà. Mais vous, Jean-Michel Blanquer, comme 12 autres ministres seulement, vous êtes donc toujours là. Et personne n'a oublié toutes vos déclarations passées. Vous savez, sur les fables de La Fontaine, par exemple, il y a eu celles aussi sur l'uniforme, sur la dictée, sur le redoublement ou encore sur le téléphone. Sauf que 18 mois après, sur chacun de ces sujets, qu'est-ce qui a réellement changé ? Presque rien, mais l'important pour vous, c'était de rassurer et d'incarner cette France d'avant, cette France oubliée, mais visiblement adorée.
Et je leur demande instamment de maintenir ou de ranimer la flamme qui est nécessaire quand on a la charge de la jeunesse et de la formation des esprits. Et je m'adresse aussi aux parents, dont c'est le devoir d'inspirer à leurs enfants le culte de l'effort et de la discipline.
Vous aurez reconnu le président Pompidou, nous sommes en 1971, et vous tenez, vous, Jean-Michel Blanquer, le même discours 33 ans plus tard.
L'école, c'est de la responsabilité de tous. C'est évidemment de la responsabilité de l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, trop souvent, l'école est le réceptacle des problèmes de la société. Et trop souvent, on lâche les enfants à l'école et on ne se responsabilise pas assez.
Vous vous souvenez ?
Oui, c'était quand j'étais recteur de Guyane.
Voilà, cela date d'octobre 2004. Vous êtes le tout nouveau recteur de l'Académie de Guyane et vous venez d'affronter votre première rentrée. À ce moment-là, à 40 ans, en réalité, la machine Blanquer est lancée. Vous êtes un éminent juriste agrégé de droit public qui va désormais enchaîner les postes à responsabilité, puisque vous serez aussi ensuite le recteur de la très emblématique Académie de Créteil, sans oublier vos différents passages auprès d'anciens ministres de l'Éducation nationale, Gilles de Robien d'abord, sous Jacques Chirac, puis Luc Chatel sous Nicolas Sarkozy, pour lequel vous serez un quasi-ministre bis. Et à l'époque, en 2009, Jean-Michel Blanquer, voilà ce que vous dites.
La vieille image, hélas si fausse, du mammouth doit complètement évoluer. Le mammouth est un félin désormais.
Le mammouth est un félin désormais, vous êtes sûr ? Le vieux pachyderme aurait retrouvé de la souplesse. Cela dit, c'est vrai que vous rêvez d'autonomiser tous les établissements scolaires. Vous voulez sélectionner les enseignants et valoriser leurs performances dans les salaires. Autrement dit, Jean-Michel Blanquer, à 53 ans, vous rassurez les gens avec votre école d'antan, mais votre vrai discours sur l'éducation nationale est managérial.
Alors non,
Jean-Michel
et alors je vous dis merci et je ne vous dis pas merci. Alors je vous dis merci d'avoir rappelé les discours que j'ai pu tenir dans différentes fonctions, parce que ça montre que je crois que là aussi j'ai un cap qui se maintient, c'est-à-dire il y a un cap cohérent. J'ai toujours penser ce que je dis aujourd'hui, et je pense qu'il n'y a pas à rougir de ça. C'est-à-dire que, d'abord, par exemple, la question de la responsabilité des parents est un sujet très important, et quand on parle d'éducation, on doit toujours parler de co-éducation entre l'école et les parents, et un des facteurs qui fait qu'un système scolaire réussit, c'est la convergence entre les parents et l'école. C'est un sujet absolument fondamental, et évidemment, et quant à ce qui a été dit sur le félin, vous savez, je pense que il y a eu de grands torts causé à l'éducation nationale par l'usage du mot, de ce pachyderme préhistorique dont je ne prononce pas le mot, parce que ça crée une sorte de cercle vicieux de l'auto-dénigrement. C'est-à-dire que toutes les structures, c'est vrai de Radio
Claude
France,
Allègre qui avait prononcé ce mot de mammouth que vous ne voulez pas prononcer il y a maintenant 20 ans. C'est incroyable comme ce mot est resté
qu'on n'arrive pas
à décoller.
Exactement, mais j'essaye de décoller l'étiquette actuellement parce que, par exemple, et là, c'est là où je ne vous dis pas merci. Tout à l'heure, vous avez dit, il ne s'est presque rien passé. Au fond, ce que vous avez voulu chercher à dire, c'est que, un, je prenais l'école d'antan, et que, deux, c'est une sorte de discours facile qui rappelle Georges Pompidou, rassurant, et qui permet, derrière ça, de ne pas faire grand-chose.
Ou en tout cas, de faire des réformes
managériales, donc derrière les apparences rassurantes un peu passéistes, il y aurait en réalité un travail managérial, probablement néolibéral, même si vous n'avez pas utilisé le mot. C'est faux. C'est tout simplement faux de décrire les choses de cette façon, et c'est même un petit peu injurieux, parce que si vous voulez
parce que ça n'est pas ça.
D'abord, dire qu'il ne s'est presque rien passé, c'est quand même fort de café, si vous voulez. C'est-à-dire que et c'est pour illustrer la question du pachyderme préhistorique. Nous sommes arrivés au pouvoir en juin 2017. Nous avons dit, nous allons dédoubler les classes de CP et de CE1 dès la rentrée prochaine. Et là, il y avait tous les cyniques que l'on voit à chaque fois dire, il n'y arrivera pas.
Ça, c'est pas l'école d'antan.
Deux mois plus tard. Deux mois plus tard, le fameux mammouth réussissait à créer ses classes dans toute la France. Un an plus tard, ça touche 190 000 personnes. La rentrée prochaine, ça en touche 300 000. Donc si c'est ça, presque rien, ça veut dire qu'en ce moment, pour 20% des élèves de France, nous sommes en train d'aller à la racine des inégalités et nous travaillons pour le futur.
Mais non, c'est pas compris. Nous avons fait
une réforme du baccalauréat. Cette réforme du baccalauréat, ça fait peut-être 30 ans qu'on en parle. Mmh. On l'a réalisée. Elle est en train de se mettre en œuvre. Les élèves qui aujourd'hui sont en seconde vont connaître en première l'année prochaine la fin, s'agissant de la filière générale, des séries S, E, S et L. Ça paraissait comme une montagne infranchissable. Nous l'avons franchi et nous sommes en train de le mettre en œuvre. Alors si vous appelez ça presque rien, ou si vous appelez ça du passéisme, quand on est, par exemple, en train d'introduire... D'accord. On est en train de... Alors, très bien. Donc je suis heureux d'avoir mal compris ce que vous avez dit. Ça vous gêne que je réponde alors, parce que je suis en train de vous dire que nous sommes en train de moderniser l'éducation nationale. J'ai toujours dit qu'il fallait des racines et des ailes. C'est-à-dire, ça ne me fait pas peur de parler de choses qui parfois peuvent exister depuis l'Antiquité. Et en même temps, c'est précisément parce qu'on a des racines qu'on peut bien se projeter dans le futur. Et par exemple, être très attentif aux différentes révolutions numériques qui caractérisent notre époque et pour lesquelles il faut préparer nos enfants. Mais nos enfants, plus ils auront une culture générale solide, plus ils sauront bien lire, écrire, compter, plus ils seront préparés à ce monde de demain. Et en même temps, il faut qu'ils sachent coder, il faut qu'ils aient des notions de numérique qui soient pas du tout superficielles, mais profondes. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a une innovation même de nature mondiale à la rentrée prochaine avec une discipline qui s'appelle sciences informatiques et numériques. C'est comme ça qu'on va aussi vers la systématisation de la programmation à l'école. Tout ça, ce sont des révolutions profonde et donc c'est dire qu'il ne s'est presque rien passé. Alors maintenant, pour ne pas échapper à votre question, je peux répondre aussi à La Fontaine et à l'uniforme sans aucun problème. Sur La Fontaine, dès juin 2017, là on était là depuis 3 semaines, une partie des CM2 de France ont eu les fables de La Fontaine. Un an plus tard, c'est tous les CM2 de France qui les ont. Quand je vais dans des classes de 6e aujourd'hui, souvent dans des quartiers défavorisés ou en ruralité, je demande toujours aux enfants qu'avez-vous lu cet été. Il y en a un quart à un tiers qui me disent les fables de La Fontaine. Rien que pour ça, ça me rend heureux d'être ministre de l'Éducation nationale.
Jeff Wittenberg.
Le dédoublement des classes primaires, CPCE1, tout le monde vous en donne acte et c'est une mesure qui a été globalement applaudie. Il faut être juste. En revanche, vous parliez tout à l'heure, ou plutôt vous ne vouliez pas prononcer ce mot de mammouth. Si on revient à la citation exacte, M. Alleg parlait de dégraisser le mammouth, et vous aussi, vous commencez un certain dégraissage, puisque dans les sommes que vous avez annoncées pour les prochaines années, on découvre qu'alors que 40 000 élèves vont rentrer dans le secondaire en 2019 et en 2020, eh bien vous supprimez des postes d'enseignants, et c'est la raison pour laquelle eh bien les professeurs se sont mis en grève, par exemple, il y a quelques jours, de façon unanime.
Des professeurs.
Mmh. Vous avez estimé à 11%, eux, on dit que c'était plus élevé.
Selon une méthodologie éprouvée depuis des décennies.
Que répondez-vous à ce paradoxe ? Plus d'élèves, moins de profs.
Jean-Michel Blanquer.
Alors d'abord, nous avons un budget en forte augmentation, plus 1,7%. C'est un des budgets qui augmente le plus en pourcentage au sein de l'État et évidemment parmi les plus forts en euros. C'est 850 millions d'euros supplémentaires pour l'an prochain. Donc nous avons un budget conséquent, et oui, l'éducation est une priorité. Mais l'objectif est évidemment de saupoudrer les moyens, simplement parce que les moyens seraient la solution, c'est pas le cas, mais d'avoir des moyens dirigés vers des fins, vers des finalités, et donc vers des priorités. Ces priorités sont très claires. La première des priorités, c'est l'école primaire. Et qui dit priorité à l'école primaire, dit création de postes dans l'école primaire. L'engagement que je prends aujourd'hui, c'est que le taux d'encadrement pour chaque département de France va s'améliorer, s'est amélioré depuis deux rentrées et continuera à s'améliorer tout au long de ce quinquennat, département par département, et a fortiori dans les départements ruraux.
Mais donc, sur le secondaire, Monsieur Blanquer.
Oui, mais c'est pour dire qu'on a une priorité à l'école primaire. Savez-vous que la France est un pays qui dépense moins pour son école primaire que la moyenne des pays de l'OCDE, ce qui est une absurdité puisque c'est là que se jouent énormément de choses pour la suite, et qu'elle dépense plus et même nettement plus que les autres pays de l'OCDE, que la moyenne des pays de l'OCDE, pour son enseignement secondaire. Ça fait là aussi des décennies que les commentateurs avisés disent ça et disent que c'est un choix absurde. Et au moment où on fait ça, c'est à mettre en parallèle d'autres raisonnements que j'ai tenus, au moment où on le fait, alors d'un seul coup, évidemment, les mêmes caricatures.
Ça ne répond pas à ma question sur le secondaire.
Si, mais je vais vous répondre sur le secondaire. Sur le secondaire, là, nous mettons des moyens supplémentaires, mais pour augmenter le pouvoir d'achat des professeurs. Mon engagement, par exemple, c'est que sur la durée du quinquennat, un professeur débutant va toucher 1 000 euros de plus par an. Entre 2017 et 2022, c'est 1 000 euros de plus par an pour un professeur débutant. Et davantage encore, évidemment, en suite de carrière. Donc, on ne cesse de dire que le problème, c'est l'attractivité du métier de professeur, c'est son statut, etc. Nous travaillons justement, et vous savez très bien que ça correspond à ma philosophie, à faire du professeur un personnage prestigieux au milieu de la société française. C'est décisif pour la santé de la France. Eh bien, ça passe par le pouvoir d'achat, beaucoup plus que par les créations de postes. Vous savez,
là, c'est des
si vous êtes professeur en sixième, la mesure qu'on a prise de quelques professeurs en moins dans le second degré se traduira,
plus de 2000.
Le cas échéant, alors se traduit un par quelques heures supplémentaires en plus pour les professeurs, donc du pouvoir d'achat en plus, en plus de ce que j'ai dit à l'instant. Et deuxièmement, elle peut se traduire éventuellement du fait de la démographie par un élève de plus sur quatre classes. Si vous êtes professeur de sixième et que vous avez 25 élèves dans votre classe, votre sujet, c'est pas tant d'en avoir 24 ou 26. C'est plutôt que les 24, 25 ou 26
surtout
qui vous arrivent.
Surtout vous êtes chanceux, parce que vous avez souvent plus d'élèves devant vous.
Non, ça peut être 28, ça peut être 20 si vous êtes en ré plus, il y a tous les cas de figure. Vous avez, mais si, mettons que vous en ayez 25, ce qui est à peu près la moyenne, vous en avez 24 ou 26, ce qui compte, c'est qu'ils sachent lire, écrire, compter, respecter autrui d'abord. C'est aussi éventuellement que vous gagnez un petit peu plus à la fin du mois. Et c'est que la stratégie générale de votre ministère soit intelligible, parce qu'elle consiste tout simplement à faire que les enfants partent bien dans la vie et qu'ensuite, au fil du temps, ils puissent personnaliser davantage leur parcours. Et si en plus vous êtes professeur en collège, vous savez qu'il y a depuis un an la mesure devoir fait, qui vous permet de vous impliquer vous-même, si vous le souhaitez, et là aussi d'ailleurs d'avoir des heures supplémentaires, et d'aider les élèves de manière personnalisée, plutôt que dans des cours magistraux. Tout ça, ce sont les évolutions concrètes et qualitatives que nous sommes en train de mener.
Françoise Pressoz.
Ce qui a beaucoup défrayé la chronique ces derniers temps, c'est la violence de collégiens ou d'élèves contre leurs professeurs, ce qui entraîne une vraie fatigue chez les enseignants, un vrai ras-le-bol. Est-ce qu'il y a une méthode Blanquer particulière, différente de ce qui a déjà été fait pour tenter de supprimer le problème, ou vous pensez que c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas vraiment lutter parce que ce sont les mêmes violences qu'on retrouve dans la société ?
Jean-Michel Blanquer.
Non, je pense qu'il ne faut avoir aucun fatalisme sur ces sujets, même s'il est bien évident que l'école est souvent en situation de subir des choses qui lui viennent du reste de la société, et qu'elle n'est pas directement responsable, mais le fait est qu'elle le vit, et qu'il faut donc, bien entendu, avoir une action pour tenir compte de cela. Mon approche, vous le savez, c'est de distinguer la classe, l'établissement et ce qui est autour de l'établissement. Et c'est une méthodologie, d'une certaine façon. Pour ce qui relève de la classe et de l'établissement, cela relève de l'éducation nationale. Et donc, j'ai déjà pris une série de mesures qui s'inscrivent dans la continuité de ce que je fais depuis 18 mois, c'est-à-dire d'abord dire qu'on signale tout.
Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Il y avait l'idée diffuse qui a traduit le mouvement en pas de vague, à tort ou à raison, l'institution incitait à ne pas faire de
souvent
mal.
Souvent à raison, apparemment.
Je vous renvoie, tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de mettre des vidéos du passé. Une des vidéos possibles aurait été, par exemple, que je disais dès que je suis arrivé, c'est-à-dire vers juin 2017, en disant, vous savez, ma philosophie, c'est l'opposé du pas de vague, justement. J'utilisais déjà cette expression.
Mais vos registres d'actes d'incivilité, les rempliront ceux qui le souhaiteront, ceux qui n'auront pas peur. On imagine un chef d'établissement capable de dire, cet incident-là, on n'en parle pas. Je ne vois pas ce que ça change, en fait, vos registres d'incivilité.
Parce que c'est un droit du professeur ou même d'un personnel de l'éducation nationale que d'inscrire sur ce registre un problème qu'il ou elle a vécu.
Ça n'enlève pas la pression du chef d'établissement, voilà ce que je veux dire.
Non, parce qu'en plus, ce sera la plupart du temps avec des outils numériques directement accessibles. Donc, par ailleurs, moi, ce que je veux qu'on évite, c'est d'opposer professeurs et chefs d'établissement. La réalité, c'est que les chefs d'établissement ne sont pas laxistes du tout en France pour la plupart d'entre eux. L'immense majorité. Moi, je soutiens évidemment les chefs d'établissement. Ils ont un rôle fondamental dans notre société. Là aussi, ce sont des personnages centraux de notre société, en situation pivot par rapport à toute une série de problèmes. Heureusement que nous avons des chefs d'établissement de qualité en France. Il ne faut surtout pas s'amuser à faire des divisions dans le monde adulte entre les différentes catégorie d'acteurs. Nous avons à avoir besoin d'une unité, déjà au sein de l'éducation nationale. Donc, on signale un problème, il est suivi. Nous allons aussi simplifier les procédures de conseil des disciplines pour qu'elles aient lieu. Nous allons varier les types de sanctions pour qu'elles soient toujours plus éducatives et plus proportionnées, notamment pour qu'elles fassent sens et que un élève qui a une sanction, voit le sens de cette sanction. Ce qu'on appelle les sanctions de responsabilisation existent déjà, mais elles ne sont appliquées que dans 1% des cas. Nous allons développer cela. Nous allons développer les équipes mobiles de sécurité qui viennent aider les établissements. Nous allons travailler aussi à ce qu'il y ait une période probatoire, c'est-à-dire quand un élève a été exclu et qu'il revient, il doit au quotidien rendre compte de sa réintégration, en quelque sorte. Donc une vision auprès du chef d'établissement ou du conseiller principal d'éducation. Donc vous avez une vision, si vous voulez, éducative, tout simplement, d'un certain retour à l'autorité et à l'ordre qui est absolument nécessaire. Et en commençant, Ali Badou a dit que j'ai beaucoup parlé de bonheur en arrivant et que et moi, je considère que, bien entendu, ça va ensemble. C'est-à-dire que le premier des droits, le premier pas pour l'accès au bonheur, c'est déjà d'être dans quelque chose de sécurisé.
Reproche, Jean-Michel Blanquer, et vous finirez de répondre à Françoise Fressoz sur la violence, justement, parce qu'on vous reproche justement la suppression de ces moyens dans le secondaire et le besoin en hommes et en femmes pour lutter contre la violence dans les établissements.
Il n'y a pas de contradiction. D'abord, il n'y a aucune suppression de poste de conseiller principal d'éducation. Il faut bien voir les suppressions de poste dont on parle sont pour la plupart des suppressions de poste qui ne sont pas devant élèves pour la majorité, que ce n'est pas des personnels de vie scolaire, que d'ailleurs, au passage, nous continuons à augmenter le nombre de personnels qui s'occupent de l'accueil des élèves en situation de handicap. Donc, en termes de vie scolaire, en réalité, ça fera plus d'adultes dans les établissements en France au travers de ces politiques complètes que nous avons. Donc, il n'y a pas de ce point de vue-là une baisse ni des moyens ni de l'attention. Mais encore une fois, si la solution c'était juste de faire pleuvoir des moyens, ça se saurait, nous serions un des meilleurs systèmes au monde, avec 1 million de personnels pour 12 millions d'élèves. Donc le sujet, nous le savons tous, et c'est là que le débat public doit être sérieux autant que possible, c'est que le sujet, il est profondément qualitatif. Il doit pas être autour de création et des suppressions de postes qui ne sont pas le premier sujet. Le premier des sujets, c'est la bonne formation des professeurs, c'est la bonne relation parents-professeurs, c'est la qualité de nos programmes, c'est notre adaptation aux réalités du monde d'aujourd'hui, c'est les différentes cohérences des apprentissages que nous donnons aux enfants, c'est la création de cette école de la confiance où on vient avec bonheur parce qu'on est en sécurité, c'est tous ces où les règles sont claires, c'est tous ces sujets-là qui sont les grands sujets de l'école. Et c'est évidemment toujours dommage quand on se focalise uniquement sur les aspects, je dirais, de quantitatifs.
Il nous reste 10 minutes. Question rapide, réponse rapide.
Pour endiguer ces phénomènes de violence, est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, comme vous l'aviez laissé entendre, à ce que des policiers entrent dans l'enceinte de l'école? Et si oui, sur quels critères? Et est-ce que c'est une pratique qui doit se généraliser?
Jean-Michel Blanquer.
Ce sujet n'est ni complètement nouveau, ni si important que ça. Je vous disais tout à l'heure, je distingue trois cercles. la classe, l'établissement et les abords de l'établissement. Il est évident que sur le troisième cercle, on a absolument besoin de relations nourries avec la justice et la police, et ce qui existe déjà, c'est le référent police pour chaque établissement.
Dans l'école, la question.
Mais ensuite, nous avons autorisé une expérimentation à Nice pour que des policiers puissent venir sans armes dans les écoles. Il y a des raisons bien particulières pour le faire dans cet endroit, et il peut exister ailleurs des raisons particulières pour le faire. Ce qui est certain, c'est que nous travaillons aujourd'hui avec les autres ministères, c'est-à-dire police, justice, affaires sociales, mais aussi sport, culture, pour que, comme l'a promis le président de la République, d'ici à la mi-décembre, nous annoncions les mesures qui relèvent de cet écosystème de l'établissement.
En tout cas, de voir des policiers.
Non, je pense qu'il faut être d'un pragmatisme absolu sur ces questions. En tout cas, il n'a jamais été question de policiers en permanence dans tous les établissements. On n'a jamais dit ça et on n'a jamais pensé que c'était la solution. En revanche, pour certaines raisons, ce soit possible. C'est un sujet sur lequel je suis ouvert et sur lequel on travaille pour arriver à des choses concrètes. Mais c'est pas ça le point principal.
La question du harcèlement à l'école, et ça participe peut-être du bonheur et de l'ordre et de l'autorité et de la synthèse entre les trois, Jean-Michel Blanquer, c'est l'une des causes que soutient la première dame Brigitte Macron. On a l'impression d'une mobilisation, de vos visites de terrain, de manière, en début de semaine. Et pourtant, comment lutter contre ce qui relève quasiment de la nature humaine chez les gamins? La cruauté, la violence qui existe partout, dès la maternelle, dès qu'on voit des gamins mis ensemble.
Mais votre question est absolument fondamentale. Votre question,
merci.
C'est une question de...
Elle est enregistrée.
C'est une question de civilisation, au sens plein de ce terme. C'est-à-dire, et c'est finalement la mission de l'école depuis toujours, c'est-à-dire que l'être humain, il est comme il est. Mais vous savez, il y a une vision pessimiste et puis une vision optimiste de l'être humain. La vision optimiste classique qui a parfois imprégné notre école, c'est la vision rousseauiste. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. C'est pas tellement ce que vous venez d'exprimer.
Non, c'est la loi du plus fort. C'est sa majesté des mouches, ma vision.
Voilà, exactement. Donc une vision plus obésienne, on va dire, plus pessimiste, et qui va dire l'homme n'est...
L'enfant est un loup pour l'enfant.
L'enfant est un loup pour l'enfant, et la société va faire ce qu'elle peut pour corriger ça. Ça, c'est un peu ce que vous venez d'exprimer. Moi, je défends une vision équilibrée et médiane. Je pense que l'enfant naît avec un potentiel fantastique. Et les sciences cognitives nous le démontrent de plus en plus. Et ce potentiel, c'est vrai aussi bien sur le plan des connaissances que sur le plan de l'attitude vis-à-vis des autres. Et d'ailleurs, nous sommes, nous, les êtres humains, des êtres de sociabilité, nous sommes des êtres d'interaction. Nous n'existons que par l'interaction avec les autres. C'est comme ça qu'on grandit, et c'est donc l'éducation qui est au cœur de notre humanité. C'est le but de l'école de réaliser ça. Et
alors, le harcèlement.
Donc, lutter contre le harcèlement, c'est pas un petit sujet anecdotique. C'est aller au cœur de ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire comment nous faisons des enfants des personnes empathiques, capables de se mettre à la place d'autrui, capables de pas persécuter le plus faible, mais au contraire d'aller aider le plus faible, de faire une société, une belle république. C'est bien ça l'enjeu. Et donc lutter, c'est pour ça que j'insiste tant, et Brigitte Macron s'est investie, comme vous l'avez dit, sur un tel sujet avec force, c'est que derrière ça, en réalité, il y a l'enjeu de notre capacité à faire une belle société, une belle république. Donc donc au travers de la lutte contre le harcèlement, il y a ce respect d'autrui que j'ai mis comme quatrième pilier de l'école primaire. Et puis il y a toutes les actions que nous sommes en train de prendre, d'autant plus que j'ai parlé de technologie tout à l'heure. C'est vrai que la société technologique dans laquelle nous sommes donne une nouvelle dimension au harcèlement, avec le cyberharcèlement, et que donc ça réclame de nouveaux outils de notre part, et c'est ce que nous faisons au travers des mesures prises.
Et vous pouvez pas être derrière chaque portable, même si vous les avez interdits à l'école, et vous, comme vous le dites, le harcèlement passe souvent par les réseaux sociaux. Et là, vous êtes impuissant, et les enseignants le sont aussi.
Non, nous ne devons jamais nous considérer comme impuissants. Et il n'y a jamais une seule mesure qui permet de répondre à ce type de phénomène. Donc l'interdiction des téléphones portables au collège, elle a des vertus par rapport à ça. Elle ne résout pas tout, mais elle a de grandes vertus. Notre travail avec les grands réseaux sociaux aujourd'hui va porter ses fruits progressivement, parce qu'on va de plus en plus éviter que des choses inacceptables se passent au travers des réseaux sociaux. Donc on ne doit pas accepter l'impuissance, on doit travailler, mais surtout ça passe beaucoup par la formation de tous les personnels qui travaillent pour l'éducation, et puis la conscience partagée dans la société. Chacun de ceux qui nous écoutent, ceux qui ont des enfants en particulier, c'est intéressant de parler avec les enfants de ont-ils été harcelés, sont-ils harceleurs, parce que c'est quelque chose qui nous responsabilise tous. Et donc, évidemment, c'est notre humanité qui est interrogée derrière ça.
Françoise.
On pourrait presque trouver un fil conducteur à l'émission, c'est la colère et la violence. Comment vous expliquez-vous que la société française soit devenue aujourd'hui aussi violente ?
Jean-Michel Blanquer.
Je pense qu'il y a des données objectives, il y a des difficultés concrètes que peuvent vivre les gens et que tout un chacun peut constater. Et c'est vrai à l'échelle de la France, c'est vrai à l'échelle du monde, et ça a produit des effets politiques que nous voyons aux États-Unis, au Brésil ou en Italie. Il faut être bien conscient de cela et être d'ailleurs responsable par rapport à ce qui se passe en cette matière. Donc il y a des phénomènes de marginalisation de gens qui peuvent se sentir périphérisés sur le plan de leur territoire ou sur le plan de leur vie personnelle. Et donc il faut entendre cela parce que on doit être dans un monde qui fait sa place à chacun et où chacun se sent respecté. C'est pourquoi j'utilise si souvent ce mot de respecter autrui. Et puis, par ailleurs, il y a des amplifications. On vient de parler des réseaux sociaux, les nouveaux médias, toute une série d'éléments qui ont des aspects positifs, mais qui ont aussi de grands aspects négatifs parce que ils favorisent la parole injurieuse, ils favorisent la divulgation de fausses nouvelles. Et du coup, l'école se trouve encore plus responsabilisée dans ce monde-là parce qu'elle doit apprendre à nos enfants à être bien construits par rapport à cela, à savoir discerner les choses. Le mot de discernement, pour moi, est aussi un mot très, très important. Donc, on a plus que jamais un rôle très important de l'école de la République. Et parfois, certains sont tentés de dire que dans ce monde nouveau, très technologique, l'école pourrait se dissoudre. Et je réponds que c'est tout le contraire. Je pense que plus que jamais, on a besoin de cette belle école de la République qui donne les savoirs fondamentaux à nos enfants et une culture générale, une capacité à se repérer dans ce monde nouveau.
Karine.
Je voudrais parler un tout petit peu de la laïcité. On arrive à la fin de l'émission, c'est dommage, mais il y a une quinzaine d'atteintes à la laïcité répertoriés, enregistrés chaque jour. J'ai appris ça au ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous proposez contre cet islamisme radical qui se propage, qui gangrène, qui s'insinue dans l'Éducation nationale? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Alors, de la même façon, je pense qu'on ne doit pas se considérer impuissant ou fataliste par rapport à ce type de phénomène. On a vraiment pris, depuis que je suis arrivé, ce problème à bras-le-corps. J'ai créé un conseil des sages de la laïcité qui permet déjà de définir la règle. Donc, vous avez aujourd'hui un texte de 80 pages qui est dans tous les établissements de France, qui permet de voir quelles sont les règles à respecter. Et ce vadémécum, comme nous l'appelons, a vocation à évoluer en permanence parce que nous sommes confrontés à des phénomènes qui évoluent. Ce conseil des sages est donc une référence pour nous. Et surtout, nous avons créé des équipes de laïcité dans chaque rectorat de France. Et c'est ainsi que vous pouvez avoir les chiffres que vous venez de dire, qu'on n'avait pas auparavant, parce que cela permet de recenser les faits.
Plateforme qui a été créée. Mais oui. Pour répondre à Karine, quand même.
Concrètement, une petite jeune femme, par exemple, qui est de religion et musulmane, qui a des, comment on appelle ça, des certificats de complaisance pour pas aller à la piscine, on fait quoi concrètement? Le chef d'établissement peut faire quoi?
Le professeur qui constate ce problème et qui sent qu'il y a un abus d'un certificat médical signale le problème. Il y a une adresse dédiée pour le faire. Donc ce problème peut être signalé. Ensuite, on en parle avec l'établissement, avec le professeur. Il y a une intervention. S'il y a des certificats de médicaux de complaisance, c'est un sujet qui renvoie à des problèmes déontologiques de certains médecins. Nous sommes décidés à prendre ce problème-là aussi à bras-le-corps. On fait des interventions dans ces établissements pour expliquer que oui, il faut faire de l'éducation physique et sportive. On donne des rendez-vous aux parents. On remonte l'ensemble du sujet. Les sujets sont multiformes. L'exemple que vous avez donné est effectivement le genre de choses qui peut... Ça correspond effectivement à une réalité assez répandue. Et nous voulons, remonter la... remonter les choses, l'école de la République doit vraiment affirmer sa force sereine. Il ne s'agit pas, vous savez, ni de...
C'est la question
c'est
de
pour
Karine.
Ça, la sanction.
Et que faire?
Est-ce que ça suffit de discuter au bout
non,
d'un
non,
moment?
Non, mais je suis insoupçonnable, après ce que vous avez dit avant, de laxisme par rapport à tous ces sujets. Nous avons des outils. Il est possible d'ailleurs que parmi les outils dont nous parlerons d'ici au 15 décembre, il y en a certains qui nous aident dans cela. Après, il faut savoir qu'on parle de choses qui peuvent être extrêmement différentes. Il y a des choses, après tout, qui relèvent en effet de la conviction, de la discussion pour arriver à résoudre les problèmes. Et ça ne sert à rien de s'exciter, mais il faut juste expliquer et puis avancer très sereinement et montrer que des règles s'appliquent. Et ça peut, et très souvent, ça se résout ainsi. Mais parfois, il faut de l'interventionnisme et de la sanction. Je vais être amené à identifier de plus en plus d'écoles salafistes en France, parfois un peu clandestines. On les fermera et je peux vous dire que les sanctions seront très fortes.
On parle de sujets différents.
Non, c'est le travail. C'est un travail.
Et le nombre d'élèves concernés.
C'est un travail que nous faisons actuellement, et je peux vous dire que vous en verrez les résultats au cours des prochains temps.
D'un mot, demain, vous devrez annoncer des annonces sur le service service national universel, promesse d'Emmanuel Macron. On peut savoir à quoi il ressemblera finalement, d'un mot?
D'abord, c'est une très belle conclusion parce que il va valoriser l'engagement pour notre jeunesse. Notre jeunesse demande de l'engagement. Je le vois en permanence. Si nous ne proposons pas...
Il nous reste vraiment quelques secondes.
D'accord.
Alors dites-nous à quoi il ressemblera. ça ressemblera de plus en plus à
un président de la République qui l'annoncera dans quelques semaines.
Mais un service militaire.
Non, c'est un service qui a vocation à durer un mois, qui sera un creuset républicain pour nos jeunes, un motif d'engagement, mais aussi d'apprentissage, par exemple, du secourisme, et donc offrira une très belle occasion d'engagement avec un impact même en amont.
Tous les garçons, les filles de 18 ans, y passeront tous.
Plutôt à 16 ans.
Plutôt à 16 ans. Mmh. Et ça coûtera combien?
Ah ben ça, en quelques secondes, il faudrait...
C'est juste un chiffre.
Non, parce que justement, ça dépend de tout un tas de paramètres qui vous seront exposés bientôt. Mais en tout cas, c'est un magnifique projet républicain pour tous les Français.
Merci infiniment Jean-Michel Blanquer d'avoir été notre invité. L'émission se termine. Merci à tous les trois. Merci à Alexandre Gilardi qui a préparé cette émission et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. À la semaine prochaine.